On va se courber et on va aller dans un mot de prière. Dieu plein de grâce, nous te remercions pour notre avocat céleste, Jésus-Christ le juste, dont la mort sur la croix a fait la propitiation de nos péchés, satisfaisant parfaitement toutes les exigences de ta sainte justice. C'est lui qui nous a amenés de notre culpabilité au pardon, des ténèbres à la lumière, de notre rébellion à ton amour, de la mort à la vie. Il nous a arrachés à ce monde mauvais et introduits dans ton glorieux royaume. Combien nous te louons pour le prodige de ton amour en Jésus-Christ. Nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils, le Fils incarné qui a été méprisé, rejeté, battu, raillé de coups et crucifié, et tout cela pour expier notre péché. Nous t'adorons, Père, pour ton grand amour et le don de Jésus-Christ, ton Fils unique, Dieu le Fils. Nous te louons, Seigneur Jésus, pour le merveilleux don du salut que tu nous as acquis. Nous t'adorons, Esprit Saint, de nous avoir révélé la vérité de l'Évangile et d'avoir fait de nos cœurs ta demeure. Père céleste, quand nous, ton Fils, voit le fruit de l'angoisse de son âme et qu'il s'en réjouisse, éloigne-nous de tout ce qu'en quoi nous avons confiance à tort et enseigne-nous à ne nous fier qu'en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Garde-nous de toute insensibilité à la grandeur sublime du don du salut, que nous poursuivons de toutes nos forces la sanctification, une sainteté sans cesse croissante. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Par Jésus, nous te prions. Amen. Alors, comme notre frère a dit ce matin, on est dans le livre du Deutéronome. Et le livre du Deutéronome, là, j'ai pas mon micro. Le livre du Deutéronome, évidemment, c'est, on parle de loi, on parle de prescriptions que Dieu donne à son peuple. Et on peut certainement être en mesure de les appliquer à nos vies aujourd'hui, même en 2019. La semaine passée, je vous ai prêché sur l'Église et un sujet que j'aime beaucoup. Parce que pour moi, ma vraie famille, c'est l'Église. Oui, j'ai ma famille, mes parents sont décédés, mais j'ai un frère et une sœur. J'ai aussi mes enfants, j'ai mon épouse, mes petits-enfants, notre arrière petite-fille, mais la vraie famille, la famille avec laquelle je vais passer l'éternité, c'est la famille de Dieu. Et aujourd'hui, la suite de cette série, cette courte série-là, qui fait suite à une église forte, c'est une famille forte. Qu'est-ce qu'une famille forte? Et même si Dieu a créé la famille, c'est lui, hein, en créant Adam et Ève, c'est la première famille. Passons pas aux enfants, là. Le couple, c'est une famille. Donc, Dieu a créé la famille, mais savez-vous quoi? Il n'y a pas de famille parfaite. Pensez pas, parce que je suis pasteur, que ma famille est parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite. Même si c'est Dieu qui a créé la famille. Il l'a créée au début parfaite, mais le péché est venu gâcher cette belle création. C'est très difficile d'élever une famille forte, surtout dans la culture dans laquelle on vit aujourd'hui. Il faut du travail acharné. Il faut de l'engagement. Et ce matin, mon but, c'est de vous décrire les caractéristiques qui définissent ce qu'est une famille forte, de vous enseigner par la parole de Dieu la possibilité de garder des relations qui sont solides, même si la famille est brisée. Aujourd'hui, c'est le cas de plusieurs familles. Elles sont brisées, elles sont divisées. Mais ce n'est pas la fin. Il ne faut pas se décourager. Il y a Dieu qui prend soin de nous, qui prend soin de ces familles-là, qui prend soin de ces enfants-là. Dieu, qui est le créateur de la famille, il désire que la famille soit forte et qu'elle soit en bonne santé. Cependant, tout au long de l'histoire, bien, les familles ont vécu des expériences de conflit. On peut lire ça à travers les Écritures. Il y a eu des séparations qui ont affecté surtout les enfants. Caïn, le premier fils d'Adam, a tué son frère Abel. Abraham et Sarah ont fait une erreur drastique quand Agar est devenue la troisième personne dans leur mariage. Abraham, Sarah ne pouvait pas donner naissance à un enfant. Et là, ils ont décidé d'avoir une autre femme. Et ça n'a pas été drôle. Puis il y a la famille de David aussi qui a vécu l'adultère, la tromperie, le viol et le meurtre. Malheureusement, les conditions ne se sont pas améliorées avec le temps. Mais peu importe combien décourageante semble être la situation actuelle, je ne sais pas dans quelle situation tu es maintenant, mais peu importe ce qu'elle est, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que le Seigneur nous a donné des lignes directrices pour fortifier nos familles, pour rendre ta famille forte. Deutéronome, chapitre 6, les versets 3 à 9, c'est la prescription de Dieu pour une famille forte. Et Sylvain nous l'a lu tantôt, on ne le relira pas. Mais en premier lieu, qu'est-ce que le passage nous dit? C'est que nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. C'est le premier commandement. Si on n'aime pas Dieu, ça ne fonctionnera pas. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Deuxièmement, ce qu'il nous est commandé, c'est d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants. C'est notre responsabilité des parents d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Et on va avoir à rendre compte pour ça. Ces deux exigences-là sont la base d'une famille forte, d'une famille qui exprime l'amour, qui exprime aussi le dévouement les uns pour les autres. Ça paraît facile. Mais il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail pour réussir à avoir une famille qui est forte. Et même si ta famille, ce matin, elle est brisée, peu importe la situation, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour nous, les parents, d'être une forte influence pour le bien des nôtres. Jamais trop tard. Dites-vous ça. Il y a toujours, toujours, toujours possibilité de recommencer à zéro. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pourquoi Dieu vous a placé exactement où vous êtes, dans la famille, où vous êtes. Et lorsque notre relation avec le Seigneur devient notre priorité absolue, je pèse les mots là, priorité absolue. Pas sortir le samedi soir, pas faire notre relation avec le Seigneur est notre priorité absolue, on est en mesure non seulement d'influencer nos enfants, parce que ça va paraître, mais aussi les générations qui vont suivre. Moi, je ne pense pas juste à mes enfants. Je pense à mes petits-enfants. Je pense à mes arrière-petits-enfants. Je pense à ceux qui vont naître après, je ne sais pas combien d'années, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, mais ils vont, ma prière, c'est qu'ils soient tous sauvés, qu'ils soient tous influencés par la foi chrétienne de leurs parents. Dieu veut que nous ayons des familles fortes, des familles qui sont aimantes. Et on peut toujours améliorer ce qui se passe dans nos familles si on est prêt à travailler pour elles. Il y a du travail à faire. C'est pas être assis à rien faire que ma famille va grandir. C'est pas parce qu'un parent fait tout, puis l'autre parent fait rien. Non. Il faut que les deux travaillent ensemble. Dieu est celui qui enseigne. Le psaume 32, verset 8 dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Et c'est ça que le Seigneur veut faire ce matin. C'est qu'il veut nous montrer, et je vais y aller brièvement ce matin. Il veut nous montrer quelles sont les caractéristiques qui forme une famille forte. Et je commence par des parents qui sont pieux. Des parents qui prient. Les éléments les plus puissants de la famille sont une mère et un père qui prient. Qui aiment le Seigneur. Ça paraît ça, hein? Des parents qui sont consacrés au Seigneur. Vous allez voir tout un changement dans votre famille. Lorsque l'enfant voit son papa et sa maman prier ensemble, lorsque l'enfant voit son papa et sa maman qui aiment le Seigneur, qui vont participer au culte du dimanche, qui sont là, qui sont consacrés à l'œuvre du Seigneur, ça a toute une influence pour une famille forte. Ensuite, des parents qui sont cohérents. Puisque les enfants, là, sont grandement influencés par ce que font leurs parents. Sont plus influencés par ce que font leurs parents que par ce qu'ils disent. Nos actions doivent toujours correspondre à ce qu'on dit. Richard, c'est quoi tu dis, toi, les...
Les bottines suivent les babines.
Les bottines suivent les babines. Rappelez-vous de ça. Nos actions vont influencer nos enfants. Ils ont des petits yeux, ils sont tout petits, mais ils sont tous là. Il faut être aussi des bons auditeurs, des personnes qui écoutent. Les enfants veulent être entendus. Mais quand les parents sont désintéressés ou trop occupés pour écouter la télévision, « Dérange-moi pas, je t'apprends à écouter mon programme. » L'enfant, « Papa, qu'est-ce qu'il y a là? » Non, mais on se regarde-tu aller des fois? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Les enfants se sentent non importants, négligés. Peut-être vous allez rire de moi ce matin, mais c'est vrai. Oh, je lui donne tout. Écoute, prends du temps avec eux et écoute-les quand ils te parlent. Si quelqu'un veut te dire de quoi, arrête tout. Il n'y a rien de plus important que l'enfant ou que ton conjoint même. Ça va dans le couple, ça. À dire. Ensuite, il faut avoir une discipline sans rejet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les parents ne doivent jamais discipliner leur enfant lorsqu'ils sont en colère. Vous savez, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en colère? Hein? Nos paroles dépassent ce qu'on pense et on dit des choses blessantes. J'ai eu moi-même à demander pardon à mes femmes, à ma femme, à mes enfants parce que je suis un colérique sanguin. Et j'ai dû faire attention à ce que je disais. Laissons Dieu, premièrement, régler nos émotions. Il y a quelque chose qui s'est passé. Premièrement, laisse Dieu régler ce que tu ressens. Tu es peut-être choqué, mais laisse Dieu régler ce que tu ressens. Puis, explique à l'enfant les conséquences pour son mauvais comportement. Et ensuite, utilise la discipline d'une manière qui n'envoie pas un message de rejet à l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant se sente rejeté. S'il y a une place où l'enfant doit être accepté, c'est dans sa famille. Ensuite, des parents qui s'aiment forment une famille forte. Quand les enfants voient une affection appropriée, des mots aimables entre leur maman et leur papa, savez-vous ce qui arrive? Ils se sentent en sécurité. Peu importe ce qui peut arriver, l'enfant sait que papa et maman, ils s'aiment. Ils sont en sécurité. C'est important. Regardez le monde dans lequel on vit. Regardez le mal qui est fait aux enfants. Regardez ce qui se passe. Ensuite, il ne faut pas avoir de favoris. Si un parent affiche une préférence pour un enfant par rapport à un autre, qu'est-ce qui arrive? L'enfant non préféré, il se sent moins aimé. J'ai jamais compris. Je suis toujours en train de me poser la question, comment un parent peut-il préférer un de ses enfants plus que l'autre? Je l'ai vu. Comment? Je ne sais pas. On vit dans un monde tout croche. Ah, puis ça se passait il y a bien des années passées aussi. Je pense que ça s'est passé depuis que la Bible. Depuis que les Écritures de la Bible, même dans l'Ancien Testament, il y avait des préférés. C'est la nature pécheresse. On est attiré parce que l'œil voit des choses qu'on aime. Et l'autre, il fait pitié. Il ne faut pas avoir de préférés. Je sais qu'à matin, on n'a pas des jeunes parents avec nous. On peut avoir Jean-Philippe, puis pauvre Jean-Philippe, il est rendu en bas. Mais si les grands-parents, on voit ça, il est temps qu'on ait une talk avec nos enfants. Avec amour, avec tendresse. Il ne faut pas que ça existe, ça, dans la famille. Un autre point pour une famille forte, c'est qu'il faut être capable d'admettre l'échec. Ouf, ça, c'est tough. Moi, je suis le parent, je ne me trompe pas. C'est moi qui ai raison. Personne n'est un parent parfait. Mais même nos imperfections peuvent être utilisées pour former, pour la formation de nos enfants. Si on admet faire des erreurs, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre enfant est plus susceptible d'être honnête. D'être honnête avec nous, lorsque lui-même échoue dans un certain domaine, il ne voudra pas dire « Papa, j'ai passé mes notes », tandis que la vérité, c'est qu'il y a eu un échec. Ou « Papa, j'ai pris une décision et je me suis trompé ». Il faut être capable de le dire. D'être capable de dire que j'ai fait une erreur. Et là, il y a un lien de confiance qui s'établit entre l'enfant et ses parents, entre le couple. L'enfant est plus susceptible d'être honnête. si on lui montre qu'on est capable d'admettre nos erreurs. Une famille forte, c'est une famille qui prie ensemble. J'ai parlé tantôt de parents pieux, mais il y a aussi la famille ensemble. Et la famille, c'est le mari et la conjointe, la femme. Ça commence là. Et plusieurs d'entre nous, on est rendus là. Nos enfants sont partis. Il reste nous. Est-ce que tu pries, hein? Avec ta conjointe, avec ton conjoint? Certaines requêtes sont privées, c'est vrai. Mais de nombreuses requêtes peuvent être des occasions pour prier en famille. Et ici, vous avez des enfants ou des petits-enfants. Mais c'est le fun. Il ne faut pas que ça devienne une routine. Comme à toutes les soirs, là, vous allez les écœurer. Excusez l'expression, vous allez les écœurer. Mais au moins une fois par semaine, rassemblons-nous en famille pour prier notre grand Dieu. C'est pas facile avec toutes les distractions qu'on a. Nos agendas sont pleins. Si on en ferait l'examen, on verrait qu'il y a peut-être bien des choses inutiles. Mais il y a toujours du temps pour prier en famille. Et en plus de prier, bien, lire la Bible ensemble. Vous savez, rien n'est plus important que de lire la parole de Dieu en famille. Et le Seigneur a donné cette responsabilité-là aux parents, pas aux pasteurs, pas aux moniteurs d'école du dimanche. On est responsable de lire la parole de Dieu en famille, soit en couple, soit avec nos enfants et avec notre conjoint. Commençons lorsque nos enfants sont jeunes. Lire une version qui est facile à comprendre. Et surtout, n'hésitons pas de leur expliquer la signification de certains passages difficiles. Quand ils posent des questions, là, c'est sérieux. Moquez-vous pas d'eux. Mais répondez le plus simplement possible. Assister à l'Église ensemble. C'est une autre chose, une autre valeur qu'on a toujours maintenue chez nous. C'est que les enfants, tant qu'ils ont resté sur notre toit, ils venaient à l'Église. Et je vois mon grand garçon, là. Denis, lève-toi, c'est le temps d'aller à l'Église. Pas un mot, il se levait à l'Église. Ce qui arrive, c'est quand ils sont plus vieux, ils vont s'en rappeler. Il y a des fois des temps où c'est peut-être décourageant pour les parents, on les voit qui délaissent l'Église. Voilà. Mais si on ne leur montre pas comment important c'est le dimanche de venir à l'Église, si je suis toujours occupé à faire quelque chose, ça peut arriver, pardon, là je ne suis pas en train de juger personne. Ce que je suis en train de dire, là, c'est que c'est important le dimanche matin d'être ici. Tant, il peut y avoir des empêchements. Mais quand des empêchements, c'est juste des activités qui pourraient être repoussées ou quoi que ce soit, pose des questions. Combien de fois j'ai eu des invitations pour aller à des brunchs le dimanche matin, je leur disais, non, je ne peux pas le dimanche matin, je vais à l'Église. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi l'Église. C'est important que je sois là pour louer le Seigneur, pour être avec les frères, les sœurs dans le Seigneur, pour entendre la parole de Dieu. C'est important. Si ce sentiment d'importance-là ne ressort pas de nous, les parents, comment voulez-vous que nos enfants soient sérieux lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils disent, ouais, ben, je pense que je n'irai pas à l'Église. Moi, je ne suis pas plus important que ça. Vous savez que les générations qui nous suivent, c'est toujours des générations qui vont en voir moins, si nous, on ne leur en montre pas. Regardez les générations dans la parole de Dieu. On voit que la première génération, la première chose qu'ils faisaient lorsqu'il y avait une conquête, on montait un lieu d'adoration et on adorait notre Dieu. La deuxième génération n'avait entendu parler. La troisième génération ne savait plus rien pas tout. Ça ne se passe pas juste dans la Bible. Ça se passe aujourd'hui. Quand nos enfants vont être plus vieux, n'ayons pas peur de les amener au service des adultes. C'est bon qu'une fois de temps en temps, dans leur adolescence, qu'ils assistent au service des adultes. Moi, ce que j'aime ici, c'est qu'ils sont en partie avec nous, dans un temps de louange. Puis une fois de temps en temps, bien, ils sont libérés, puis ils assistent au culte des adultes, à la prédication. De cette façon-là, frères et sœurs, les enfants vont apprendre à adorer Dieu dans l'assemblée et à écouter sa parole. Ça prend de la discipline, mais quand même. Ensuite, il faut encourager nos enfants à avoir des temps de dévotion privée. Des temps eux-mêmes seuls avec le Seigneur. Les enfants ont besoin de développer l'habitude de lire la parole de Dieu par eux-mêmes. S'ils ont du mal à comprendre un passage, on est là pour leur offrir de l'aide. Il ne faut pas qu'ils soient laissés en suspens avec une question importante. Papa et maman, ils sont là. Ensuite, il faut enseigner à nos enfants comment gérer de l'argent. On va commencer par les instruire à comment épargner, comment donner, comment dépenser. L'exemple biblique d'offrande, c'est un bon moyen de commencer à les habituer à donner à Dieu. Quand on était à Gatineau, ça marchait comme ça. Bon, il y avait l'offrande qui était passée dans les classes d'école du dimanche, puis les enfants, ils avaient tant hâte de pouvoir apporter leur petite contribution. Et ça les suit. Vous savez, il y a un autre point que je vais apporter, c'est ne pas encourager la critique dans la famille. Et ça, aujourd'hui, c'est un fléau. Hein, les arguments, les désaccords ne devraient jamais devenir des occasions pour dire des mots blessants. Au lieu d'accepter ce genre de langage-là, prenons le temps de s'asseoir ensemble avec la parole de Dieu et recherchons le point de vue de Dieu sur la façon dont nous devons nous traiter les uns les autres. Ça, c'est la façon d'agir. Oh, c'est facile de traiter quelqu'un. Mais regardez bien ce que la parole de Dieu dit. Hein? Si tu traites ton frère de raca, stupide, c'est comme si tu l'aurais tué. C'est sérieux. Il y a des mots, il y a des paroles qui sont blessantes, qui vont demeurer dans la tête de l'enfant, de la personne, toute cette vie. Si c'est arrivé, demandons-leur pardon. Même si tu es un grand-papa, tu es une grand-maman, demande pardon à ton enfant ou à ton ton petit-enfant. Peu importe, faut se pardonner. On n'est pas parfait, on le sait. Dieu nous a pardonné parfaitement. Faut pas avoir peur. L'enfant verra pas là-dedans un signe de faiblesse. L'enfant va voir que son papa, sa maman l'aiment, puis qu'eux autres aussi sont fragiles, puis qu'ils peuvent commettre des erreurs. Puis qu'à leur tour, eux aussi, s'ils commettent des erreurs, ils vont être pardonnés. Partageons ensuite les chagrins, les déceptions, les épreuves et les temps difficiles. En famille, vous savez, il y a un âge approprié, c'est-à-dire... Commençons à dire à nos enfants quelles sont nos luttes, nos combats, afin qu'ils puissent voir comment Dieu opère. Ça, c'est important. Est-ce que ton enfant a vu dans ta famille Dieu agir? Il n'y a pas d'honte à leur dire « ça ne va pas bien financièrement ». Il va falloir faire attention. Puis tout d'un coup, il y a de l'argent qui arrive. Il y a des frères, il y a des sœurs qui viennent aider. Ça, c'est Dieu qui agit. Et l'enfant voit ça, puis il dit, « Wow! Wow! Quel grand Dieu! » Et à leur tour, ils seront plus disposés à partager leur fardeau avec nous. C'est pas bon qu'ils aient partagé ça avec qui que ce soit. N'importe qui. Répondre aux questions difficiles. Quand ton enfant te pose une question qui n'est pas facile à répondre, prends le temps de l'écouter puis aide-lui à trouver une bonne réponse. Fais ce que tu as à faire comme parent. Quand nos enfants sont des adolescents, c'est bon aussi de leur conseiller à développer une relation peut-être avec un adulte de confiance. Ça peut être un moniteur d'école du dimanche. Ça peut être dans des camps bibliques des fois. Il y a des bons moniteurs. Puis il faut faire attention. Il faut être surveillé. Pas n'importe qui. Mais combien c'est bon d'avoir une personne confidente en qui je peux me confier, avec qui ils puissent recevoir des conseils pieux. Oui, les parents sont là. Il y a des fois dans des situations où les parents ne sont pas là. Puis tu as besoin de réponses tout de suite. C'est bon de développer certaines relations, des relations de confiance, j'appelle ça, avec d'autres adultes. Pour une famille forte, il faut construire des convictions bibliques dans la vie de nos enfants comme étant leur guide. La Bible, c'est leur guide. Les enfants ont besoin de savoir en quoi ils croient. Pas parce que papa, il croit à ça. Pas parce que maman a dit ça. J'y crois parce que j'y crois. Je suis convaincu que c'est ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. Par contre, les convictions sont apprises lorsqu'ils nous regardent agir. Si tu es un parent de conviction, ton enfant te regarde. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Mais il te regarde agir. Mais il dit, c'est un homme de parole, c'est un homme de conviction, c'est une femme qui a des convictions solides. Notre conduite est importante. Passer du temps avec nos enfants. Si je pouvais reculer en arrière, j'en passerais encore plus, mais les enfants aiment être avec leurs parents. Donc, c'est bon de planifier des activités qui sont amusantes en famille. Si on ne fait pas ça quand ils sont jeunes, c'est sûr qu'à l'adolescence, ils ne voudront pas être avec nous autres. Puis c'est sûr que lorsqu'ils seront plus vieux, ils ne viendront pas te voir souvent. Quand ils sont jeunes, c'est bon de développer de planifier ces activités-là. Parce que quand ils seront plus âgés, ils vont avoir des bons souvenirs à se raconter de tous ces temps merveilleux qu'ils ont passés en famille. Et laissez-moi vous dire que chez nous, ils ont l'occasion de rire de moins un qu'en masse. Ensuite, il faut être disposé à demander pardon. Invitons nos enfants à discuter avec nous des problèmes non résolus. Parce qu'un problème non résolu devient un plus grand problème. Puis ensuite, enseignons-leur aussi à se demander pardon. C'est une chose que Joanne a insisté lorsque les enfants étaient jeunes, c'est que lorsqu'il y avait un conflit, après il fallait qu'ils se demandent pardon. Puis qu'ils fassent une caresse. Ça, c'était dur. Aujourd'hui, je peux dire que Ils ont dans la quarantaine, trentaine avancée, puis encore, ils se donnent des câlins. Et gloire à Dieu, hein? Ensuite, il faut soutenir les enfants également. C'est-à-dire, les différends entre frères et sœurs sont inévitables. Ça va arriver. Mais ils doivent être traités équitablement. Il ne faut pas faire sentir à son enfant qu'on est contre lui, puis qu'on est plus pour l'autre. Non. On peut exprimer notre désaccord, mais on n'est pas contre la personne. Grosse différence. Ensuite, soyons honnêtes avec nos enfants. La tromperie apprend à un enfant à devenir méfiant. Méfiant de ses parents ou méfiant de tout le monde. Être un refuge l'un pour l'autre. Quand un membre de la famille est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On lui offre confort. On lui offre de l'aide. En faisant un bout de chemin avec lui. J'aime ça, cette expression-là. Hein, je lâche tout ce que je fais, puis je fais un bout de chemin avec toi. On veut l'aider à surmonter ces difficultés-là. Je conclue avec ceci. Le rôle des enfants dans une famille forte, c'est quoi? Les enfants ont un rôle, ils font partie de la famille. Les conflits, les temps difficiles au sein d'une famille sont souvent le résultat d'enfants en action, d'enfants en croissance. C'est normal. S'ils sont toujours assis dans un coin et qu'ils ne font rien, posez-vous des questions, sont-ils malades ou quelque chose. Mais l'enfant a quand même la responsabilité de demander pardon lorsqu'il agit mal, de faire amende honorable. Chercher, et ça c'est une valeur qui est disparue, je pense, ou qui est en train de disparaître, chercher à honorer sa mère et son père en tout. Même si ton père a été un alcoolique, même si ton père a été ci, ça, whatever. C'est sûr que tu n'aimes pas ce qu'il a fait. Mais c'est ton père. C'est ta mère. Et la Bible demande d'honorer son père et sa mère. Maintenant, les grands-parents aussi, on a un rôle à jouer dans une famille forte. Les grands-parents peuvent avoir une influence dans la vie de leurs petits-enfants s'ils se rendent disponibles. C'est important d'être disponible. Et ensuite, s'ils sont disposés à écouter et à passer du temps avec eux. Pas les gâter au point d'accepter des choses qui ne sont pas correctes. Si tu es un grand-papa et une grand-maman chrétienne, si tes enfants sont, tes petits-enfants sont avec toi, montre-leur la bonne chose. Enseigne-leur les bonnes choses. Prie pour eux. Prie pour ton enfant aussi, tes enfants. Donc, cette semaine, posons-nous ces questions-là. Que fais-tu pour être le champion spirituel dans ta famille? Es-tu un leader dans ta famille? C'est-tu toi qui initie la prière? La lecture de la parole. Est-ce que tes enfants voient l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que tu es? Est-ce que ton épouse voit? Est-ce que ton mari voit l'homme ou la femme de Dieu que tu es? Et y a-t-il des choses que tu pourrais améliorer cette semaine afin de garder ta famille concentrée sur les plans de Dieu pour leur vie? Tout le monde a eu son petit bulletin. Les choses sont toutes là. Le message va être sur Internet, sur notre site web bientôt. Faites-le écouter à vos enfants qui ne sont pas ici. Prenez un temps pour partager ensemble ce que la parole de Dieu dit. On ne peut pas être parfait, je vous le dis. Mais on peut s'améliorer. Merci Jésus pour la parole qui nous est transmise, qui nous est enseignée. Merci pour ta grande patience envers chacun de nous. Merci Dieu pour la famille, pour la grande famille de l'Église, pour notre famille en particulier. Et Seigneur, on te prie de nous aider, jour après jour, à observer tout ce que ta parole dit, tout ce qu'on a vu dans le passage biblique qui est écrit, que Sylvain a lu, qu'on puisse être fidèle à enseigner cette parole-là à nos enfants, à nos petits-enfants et à ceux qui vont suivre. En Jésus, je te prie. Amen.